L'Afrique est dans l'angle mort de la plupart des Français et nous allons aujourd'hui parler de l'angle mort, puisque nous allons parler du Soudan. Le Soudan dit très peu de choses à très peu de gens. Le Soudan, ça rappelle parfois l'antique Nubie, protectorat pharaonique égyptien. Ça peut rappeler à certains amateurs de petite histoire, la fameuse girafe soudanaise offerte en 1826 à Charles X par le souverain égyptien. Et puis, il faut le dire, dans l'inconscient collectif, le Soudan, c'est Fashoda, aujourd'hui Kodok, à peu près. Fashoda, 25 août 1898, horreur absolue, la colonne marchand qui essayait de faire un vaste coup de filet de Dakar à Djibouti, se heurte au futur Lord Kitchener, qui, lui, allait du Caire au Cap. Et c'est là que la crise de Fashoda, on a rappelé que Jeanne d'Arc avait été brûlée, etc., a failli aboutir à une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre. Mais ensuite, on sait que l'entente cordiale en 1904 est arrivée. Donc voilà à peu près ce que, en France, nous avons du Soudan. Nous savons, sans doute, nous ignorons que le Soudan est devenu indépendant. Un des premiers pays, hein, c'est le 1er janvier 1956, ce condominium anglo-égyptien donne l'indépendance. Donc avant le Ghana, parce qu'on cite toujours le Ghana de Nkrumah comme premier pays indépendant. Et je voudrais que nous puissions, grâce à trois universitaires qui vont se succéder dans un ballet, vous allez voir ça, je voudrais que nous puissions ajouter de la complexité et du social. Parce que la complexité, parce que généralement on dit, bon, le Soudan, c'est la lutte entre les Arabes et les Africains, entre les anciens maîtres esclavagistes et les anciennes populations serviles, ou bien on dit, c'est la lutte entre la religion et puis le nationalisme, matinée de marxisme pendant un certain temps. Et puis on regarde ce qui se passe sans rien comprendre et en parlant d'affrontements tribaux et de luttes tribales. Or, ce n'est pas aussi mécanique et je pense que la complexité doit avoir sa place pendant notre émission. Je voudrais que nous ne partions pas du passé le plus lointain, mais au contraire de ce qui est le plus présent. Et j'ai là, en ce moment, en plateau, en plus de Lucie Revilla, qui est politiste, sociopolitiste même, qui est attachée à l'Université de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, je voudrais, et qui va rejoindre bientôt l'IMAF, l'Institut des mondes africains, je voudrais, avec vous, Clément Deshaies, qui est un anthropologue lié à Paris 8, où vous avez soutenu votre thèse, vous étiez, il y a exactement 2 ans, invité de Mediapart en studio pour parler du Soudan, parce que le Soudan venait de mettre fin à 30 ans de règne d'un potentat, Omar al-Bashir, qui avait pris le pouvoir en 1989 et qui a été obligé de le céder le 11 avril 2019 sous la pression de la rue, on y reviendra, notamment dans les villes du Nord à partir de décembre 2018. Mais le 11 avril, il est déposé et c'est une espèce de co-réalisation assez bizarre de la rue et de l'armée. Mais dès le 3 juin suivant, un sit-in pacifiste est violemment réprimé et laisse sur le carreau à peu près 130 morts. Et vous, quand vous étiez, Clément Deshaies, au micro, vous disiez, je ne sais pas vraiment où on en est. Le savez-vous maintenant ?
Alors, pas forcément beaucoup plus. Les choses ont quand même assez évolué depuis, puisqu'il y a des accords qui ont été signés à nouveau entre l'armée et les civils. Il y a un certain nombre de documents de travail qui permettent d'organiser la relation entre les civils et les militaires qui ont abouti à avancer dans la transition politique du régime d'Omar el-Béchir vers un régime qui se veut civil. Néanmoins, les relations de pouvoir entre la rue, l'armée, les différentes composantes de l'armée, parce que l'armée n'est pas un bloc unique, et les différentes composantes des forces civiles politiques, n'est toujours pas complètement clair. Un certain nombre de choses n'ont pas abouti, il n'y a toujours pas de conseil législatif. La future constitution n'est toujours pas écrite, il n'y a pas d'accord dessus. Donc on est encore dans un moment de flou, de transition qui s'étale. Un certain nombre de choses avancent, on n'en est pas au même point qu'il y a 2 ans. On sent aujourd'hui que l'armée n'a probablement pas envie de revenir autant en force qu'on le soupçonnait il y a 2 ans. Néanmoins, cette espèce d'accord un peu bancal que tout le monde dénonçait, sauf quelques forces politiques à l'époque, a tenu ces 2 années, a permis d'avancer vers un certain nombre de réformes, et notamment les accords de paix avec les groupes rebelles, qui est une avancée majeure pour le Soudan, puisque il faut quand même rappeler que la guerre civile au Soudan date quasiment depuis son indépendance, avec des pauses à certains moments, mais que depuis 1955-1956, il y a des guerres civiles au Soudan, et que enfin, aujourd'hui, quasiment tous les groupes rebelles ont rejoint la table des négociations, ont soit déjà signé ou soit en cours de négociation avec le gouvernement. Donc on a quand même des avancées qui sont assez fortes. Néanmoins, tout un certain nombre de problèmes qui étaient latents, notamment les questions de corruption, d'inégalité, de crise économique, on va peut-être pouvoir y revenir un petit peu plus par la suite, sont toujours très présentes et sont toujours le vecteur d'une contestation au Soudan, aujourd'hui toujours très forte, à la fois contre les militaires, mais aussi, et c'est nouveau, contre les civils qui sont au pouvoir.
– Vous-même, vous êtes, Lucie Révilla, bien au fait d'un tel régime qui ne peut pas s'évanouir, est tombé comme un château de cartes. Enfin, Omar al-Bashir était un drôle de personnage qui avait commencé comme une sorte de figure de l'islamisme et qui termine vautré dans les pétrodollars, pour le dire vite. Mais il avait construit un régime, et vous êtes spécialiste de la coercition, et là vous êtes servi. Et on peut quand même se dire, est-ce que cet homme qui était devenu très encombrant, poursuivi par la justice internationale pour ses actions au Darfour, est-ce qu'il n'est pas escamoté par une armée qui continue à vouloir et peut-être à même tirer les fils ?
Alors, je pense qu'il y a différents éléments dans la question. Alors tout d'abord, bon, la figure de Omar el-Béchir voilà, n'est pas le seul architecte de ce régime. Bien au contraire, il y a des grandes figures en fait intellectuelles, des grandes figures de gouvernement aussi. Qui ont appartenu à ce régime pendant 30 ans, et l'homogénéité même de ce qu'on appelle le régime, en fait, on ne peut pas vraiment parler d'homogénéité, il y a une grande hétérogénéité. Et par exemple, il y a une autre grande figure du régime, donc Hassan al-Turabi, donc qui était vraiment le leader en fait des frères musulmans au Soudan et qui a participé à construire ce qu'on a appelé après le mouvement islamiste. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un château de... Enfin voilà, l'image que vous avez utilisée du château de cartes est assez intéressante parce qu'effectivement tout ne s'écroule pas comme ça du jour au lendemain. Et ce qui s'est passé effectivement, donc à partir de la fin 2018, montre aussi les fragilités internes au régime où il y avait de la dissension. Moi je travaille plutôt en fait sur les personnes proches d'une partie de Moutamar el-Ouattani, de Congrès national. Qui était en fait l'expression partisane du régime islamiste. Et on voit bien que il y avait beaucoup de petits militants, d'affiliés, militants, militantes qui étaient qui se posaient des questions déjà depuis longtemps. Il y avait eu la scission à la fin des années 90 avec Hassan al-Turabi qui avait fondé son parti. Donc voilà, on voit cette grande hétérogénéité des affiliations à l'intérieur même de ce qu'on appelle le mouvement islamiste et le régime.
Mais quand il y a eu, à partir de décembre 2018, vers Atbara, la ville à 300 km au nord de Khartoum, c'est une ville ouvrière, il y avait quelque chose de très classique pour un regard extérieur, un mouvement social réel dans une ville ouvrière qui démarre avec une cause occasionnelle, c'est le triplement du prix du pain. On peut ne pas plaquer évidemment nos présupposés occidentaux, mais on peut aussi ne pas allez toujours chercher le kaléidoscope, ethno, ce que vous voulez. Là, nous étions dans quelque chose d'assez classique, non ?
Alors oui, alors surtout sur la, comment dire, le surgissement de la mobilisation, peut-être que mon collègue sera plus à même de répondre que moi. Mais c'est vrai que, alors sur cette question de, effectivement, ne pas mettre toujours les lunettes ethno-tribales qu'on a l'habitude de mettre dans la lecture, dans l'analyse de la situation au Soudan, c'est aussi quelque chose, par exemple, qu'on voit beaucoup dans l'analyse du régime, par exemple, où on aurait un régime un peu, alors pour le dire très vite, un peu grosso modo, un peu de manière un peu caricaturale, qui aurait été uniquement en fait mené par les élites originaires de la vallée du Nil, dites arabes. On voit aussi là que, par exemple, le régime était beaucoup plus hétérogène socialement, alors ethniquement, s'il faut reprendre le terme, mais voilà. Et ça, c'était effectivement très, très important. Et on retrouve ça, en fait, aussi là, dans les mobilisations, à l'échelle très locale, au niveau des quartiers. Voilà, c'est très multiple, c'est très hétérogène socialement. Et donc, ça donne effectivement, ça nous pousse, nous, voilà, politistes, sociologues, anthropologues, historiens, à affiner nos analyses, effectivement, de ces situations.
Mais justement, je pense que peut-être qu'on pourrait faire venir Elena Zadini, qui est au CNRS, membre de l'IMAF, l'Institut du Monde Africain, et spécialiste en tant qu'historienne du Soudan. Et j'aimerais qu'on puisse partir d'une sorte de processus de racialisation des rapports sociaux, en définitive, avec des notions assez floues quant au référent racial, assez floues et flottantes. Et j'aimerais que vous puissiez raccrocher cela à une histoire plus longue et qui est évidemment liée à la colonisation du Soudan.
Oui, et même à la période précoloniale, parce qu'on peut vraiment parler d'une très longue durée, avec des processus qui commencent déjà bien au XIXe siècle, en lien avec la traite des esclaves, qui, on peut dire, pose les jalons et les bases pour cette dichotomie entre Arabes et Africains. C'est-à-dire, on finit par dénommer comme esclaves des populations qui n'étaient pas en marge, mais qui étaient vues comme telles, et qui en tout cas devenaient proies des razzias dans certains groupes habitants au Nord-Soudan. Et en fait, ces agressions étaient justifiées sur une dichotomie essentielle entre population musulmane et population non musulmane. Et il y a une retranscription de ces termes-là en plus tardive, qui a justement cette dichotomie arabe et africain. Et c'est important de l'évoquer, pourquoi ? Parce que c'est devenu un prisme d'analyse de toute l'histoire bien plus récente jusqu'à nos jours, même l'analyse dont parlait Lucie Ravilla du régime de Béchir, une guerre ou une domination des Arabes sur les Africains. Et c'est un prisme vraiment qui phagocyte la complexité de la société soudanaise. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a eu des rapports de domination qui, sur la longue durée, sont liés justement à des rapports extrêmement violents en lien avec l'esclavage qui se sont reproduits pendant la période coloniale. Mais effectivement, on a une tendance à subsumer tout dans cette dichotomie-là, qui est absolument, enfin, qui est compréhensible, mais trop grossière pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe au Soudan.
L'abolition officielle de l'esclavage au Soudan, ça date ?
Ça s'est fait par étapes, mais à partir en fait des années 10. Donc ça s'est fait par étapes, elle n'est pas totale. Disons que les Britanniques, dès qu'ils arrivent, ils abolissent les statuts d'esclavage. Mais en fait, les personnes qui étaient déjà esclaves, bah, ils sont contraintes par les Britanniques à rester avec leur maître. Donc il y a une politique sur les papiers d'abolition, mais de facto, les Britanniques ont plein de moyens légaux pour obliger les esclaves à rester avec leur maître.
Jusqu'à une politique de coercition, oui. La police oui. Allait récupérer les esclaves essayant de gagner la liberté. Enfin.
complètement. Ils allaient les reprendre et les obliger à retourner chez leur maître, sinon ils auraient été emprisonnés. Donc ils n'avaient pas le choix. Et en fait, ça change seulement après la Première Guerre mondiale, autour des années 20, suite à un gros scandale avec un indépendant britannique, un fonctionnaire qui retourne en Angleterre, qui est viré justement parce qu'il parle trop. Et en Angleterre, il contacte la société anti-esclavagiste et il dénonce ce qui se passe au Soudan. Et c'est comme ça que les choses sont obligées à évoluer.
Mais donc on a un colonialisme qui, cette bonne guerre si j'ose dire, divise pour régner, et on a, vous parliez des années 20, il y a dans les années 20 de nombreuses révoltes, on pense à la guerre du Rif par exemple, en Afrique contre le colonialisme, mais il y a une révolte dont vous êtes une des spécialistes et qui est très importante dans l'imaginaire collectif du Soudan, et vous militez, vos recherches veulent absolument qu'on prenne en considération même les révolutions manquées, car les révolutions manquées laissent des traces. Et donc parlez-nous de ce soulèvement de 1924 qui était en définitive inclusif, alors que le colonialisme exclut, divise, et pour les siècles des siècles.
Non, mais c'est tout à fait comme ça. En fait, il y avait une politique très claire de divide et impère, basée sur des définitions, labellisations ethniques, et une tendance très forte de la part des colonisateurs britanniques de soutenir des élites qu'ils identifiaient comme arabes. Donc déjà, cette labellisation est très, vraiment en lien aussi avec la période coloniale, bien qu'on puisse revenir en avant. Et en fait, c'est un mouvement qui essaye de dépasser cette labellisation en disant « nous sommes tous soudanais » et qui a une politique tout à fait et de manière explicite d'un nationalisme inclusif, c'est-à-dire « nous sommes tous égaux ». Qu'on vienne du Darfour, du Sud-Soudan ou du Centre-Soudan, des Atbara comme des Khartoum, on est tous des Soudanais. C'est important de savoir que c'est un épisode révolutionnaire qui n'est pas unique dans l'histoire du Soudan. En fait, on peut dire que l'histoire contemporaine du Soudan est marquée par des soulèvements civils. Moi, je les appelle révolutions parce qu'elles sont vécues comme ça par les acteurs même. 24 est la première d'une série. Il est important, justement, dans les contextes de 2019, de rappeler les révolutions de 1964 et aussi celles appelées Intifada de 85. C'est des soulèvements civils dans lesquels il y a cette idéologie qui reste très forte. On est tous soudanais et tous ensemble, on lutte contre un régime considéré comme oppressif. En 24, c'est les colonisateurs britanniques. En 64, c'est le régime d'Aboud. En 85, c'est le régime de Nimeiri. Et maintenant, c'est contre le régime de Béchir. Chaque régime soudanais a été renversé par une révolution civile complètement pacifique, dans laquelle le rôle de l'armée, par exemple dans la dernière, est visible, mais pas du tout prépondérant. Donc c'est enfin, quelque chose qui d'ailleurs marque beaucoup les esprits révolutionnaires en 2019, cette idée qu'on l'a déjà fait, on est capable de le faire, il y a quelque chose dans notre histoire qui nous permet ensemble d'accomplir des choses absolument extraordinaires.
Lucie Révilla, oui.
Et je voulais rebondir justement sur ce que disait ma collègue. On voit, enfin moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, enfin voilà, lors de mon dernier terrain durant l'été 2019, c'était justement qu'on voit comment certains imaginaires qui ont structuré des mouvements dans le passé étaient réactualisés à ce moment-là, et notamment la dénonciation en fait du racisme, donc le terme même racisme que je voyais avant la chute du régime, en fait. Alors, c'est vrai, employé, on en parlait, mais plutôt, en tout cas, moi, ce que je constate avec mes enquêtés, qui en parlaient, mais à l'intérieur de l'espace privé. Et là, on voyait vraiment dans la mobilisation et dans ce qui a été appelé après les comités de résistance, à l'échelle du quartier, cette thématique extrêmement vigoureusement discutée, débattue, et ça en faisait, voilà, c'était un moment vraiment d'explosion du débat public, y compris sur des thématiques qui, bien évidemment, étaient très présentes, mais davantage tenues dans l'espace privé, dans la discussion, voilà, de plus invisibilisées, en fait. Et là, c'était vraiment assez incroyable, cette période, en fait, voilà, de printemps-été 2019.
Nous avons fait un sort à cette prétendue division, même s'il ne faut pas nier qu'il y a eu des groupes serviles entre arabes, maîtres esclavagisants et africains noirs, jadis esclaves. Mais que pensez-vous de cette autre, puisque c'est toujours un peu binaire, façon de diviser, j'en ai dit un mot juste au début de l'émission, entre les musulmans religieux et un nationalisme plus déconfessionnalisé, voire dans les années 70 et 1980, quand c'était encore assez puissant, marxiste.
Tout à fait. C'est comme dans n'importe quel pays, c'est-à-dire c'était un débat très polarisé entre des forces qui pensaient que l'islam était l'incarnation de la majorité, et donc quelque part d'une manière démocratique il devait prévaloir parce que la majorité était musulmane, et une autre partie fortement influencée par le marxisme. Vous savez que le parti communiste soudanais était un des plus larges du continent et avait une branche, branche féminine, c'était pas exactement une branche mais une société, un mouvement féminin qui était aussi très lié à ça et très puissant, et aussi un lien avec les mouvements syndicaux qui prennent partie par ailleurs à la lutte coloniale et portent aussi les pays à l'indépendance. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement ouvrier important, un parti communiste qui l'organise, et il y a aussi, là aussi, je pense que beaucoup de crédit du Parti communiste est son intervention lors des grandes de la révolution de 64, mais aussi dans la lutte anticoloniale. Donc il y a un capital d'histoire lié à ces partis qui les rend extrêmement prestigieux et qui les rend un rival formidable aux autres partis dits traditionnels, comme l'Umma Party, le Parti Unioniste, qui eux incarnaient plutôt des factions religieuses liées à l'islam, là aussi qu'on peut raccrocher au XIXe siècle, etc., etc. Donc c'est un parti qui a un énorme prestige. Et c'est un affrontement qui est violent, qui porte à la mort, en anglais on dit beheading, les décapitations du Parti communiste lors de la dictature des Nimeri. Mais c'est des débats qui continuent et qui marquent toute l'histoire du XXe siècle, on peut dire, parce qu'il y a déjà des communistes, on peut dire, ou des sympathisants dans les années 20. Et encore en 2019, je pense que notre collègue Clément il pourra nous en parler davantage, encore en 2019, les communistes sont là. Et les islamistes aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est une polarisation qui marque l'histoire soudanaise.
Il a été question à l'instant, brièvement, des femmes. Et c'est passionnant parce que je représente le sens commun. On se dit majorité de mariage arrangée, avant 18 ans, très peu d'études. Or, il y a, d'une façon peut-être plus souterraine, plus subtile, il y a un rôle important. Non pas de la femme, comme on disait en l'essentialisant au siècle passé, mais des femmes au Soudan.
Alors oui, et sur la très longue durée, enfin, je pense qu'aussi Elena Vezzadini aura beaucoup de choses à dire sur ce point. Et du coup, ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit. En fait, c'est assez, le Parti communiste soudanais, non seulement représente un acteur politique historique, qui avait une branche féminine, etc., mais qui a aussi influencé dans sa forme organisationnelle beaucoup d'autres mouvements politiques, dont le parti islamiste lui-même, alors même qu'il était l'ennemi juré, on va dire. Enfin, les deux forces politiques étaient vraiment dans un antagonisme exacerbé. Et pourtant, toutes ces formes organisationnelles ont façonné, en fait, ont imprégné d'autres organisations politiques, et y compris le mouvement islamiste. Et donc, effectivement, le mouvement islamiste avait aussi, par exemple, une branche féminine, des figures aussi intellectuelles, de politiques, de femmes islamistes, au front NIF, le National Islamic Front, puis ce qui est devenu, en fait, le NCP par la suite, donc le National Congress Party. Et donc, on voit bien que, effectivement, il y a des organisations, en fait, très importantes qui ont aussi permis l'accès, en fait, des femmes à l'espace public et au débat et effectivement aussi au travail politique. Et c'est ce qu'on voit à la fois dans les mouvements de gauche comme dans les mouvements effectivement aussi islamistes au Soudan.
En mai dernier, il y a donc 2 mois, le président Macron, qui a annulé les 5 milliards, je crois, de la dette française, mais les Allemands ont fait de même, etc., avec un peu moins de sommes. Il a une expression curieuse, il a parlé d'époque ou de révolution, pour 2019, post-islamiste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Peut-être que c'est une interprétation très littérale du fait qu'effectivement, il y a eu des forces civiles qui ont voulu dépasser cette, disons, réduction de l'islam à un régime complètement dictatorial. Il y avait un projet, tu as parlé d'Hassan al-Turabi, il y avait un vrai projet civilisationnel, on pourrait dire, à ses débuts, des idées de refondation totale d'un nouveau monde plus juste qui serait opposé à ce qui s'était passé avant avec la fin de la dictature d'Inémer qui était une période de crise sociale totale. Donc il y avait un vrai projet social, des refondes sociales qui étaient très proches quelque part pour certaines choses au projet communiste dans lequel il y aurait eu une société plus égale. Et ces projets-là qui étaient vraiment tenu au cœur des... Enfin, il faut les voir comme un projet civil, pas simplement imposé, mais il y avait vraiment une adhérence populaire à ça. Et bien, c'est devenu la dictature de Nimeria avec la catastrophe, la corruption qu'on connaît. Donc, je crois qu'il y a une déception généralisée. Je crois que Luciel, je te passerai la parole parce que tu connais exactement ça, une déception finale liée à la chute non seulement d'une personne, mais la chute d'un projet, d'une croyance, de désespoir.
Oui, c'est vrai qu'un des axes assez importants et sur lequel il faut porter notre attention et qu'il faut absolument prendre au sérieux, c'est qu'effectivement, la structuration du mouvement islamiste au Soudan s'est faite aussi à partir d'un projet social et avait, par exemple, un des discours de Hassan al-Turabi. On pense souvent, voilà, l'influence du monde dit arabe, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient sur le Soudan dans l'idéologie. Or, on voit que Hassan al-Turabi avait aussi, en fait, aussi, était tourné aussi vers l'Afrique, enfin comme continent, un peu avec, alors on a des collègues qui travaillent sur ça également, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire panafricain, mais voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre au sérieux et il y avait effectivement un projet d'égalité sociale. Alors bon, je redis Hassan al-Turabi parce que c'est la figure la plus emblématique, mais par exemple qui avait des positions qui étaient considérées comme libérales, notamment sur la place des femmes en politique, sur le marché du travail, dans les institutions, dans les administrations. Et on voit que au fil du temps, après c'est quand même un régime qui est arrivé par un coup d'État, donc il y avait quand même une volonté quand même autoritaire dès le départ, et d'imposition de ce projet donc civilisationnel, tel qu'il a été conçu et appelé comme ça par les élites islamistes, a complètement évacué en fait les prétentions égalitaristes, etc. Investi dans des conflits qui ont été extrêmement meurtriers au Darfour, au Sud-Soudan, et au fur et à mesure, la déception croissante des militants de la base, une espèce de détachement en fait au fur et à mesure des échecs, et notamment la séparation avec le Sud-Soudan. Enfin, moi je le vois avec les personnes auprès desquelles j'ai enquêté pour ma thèse. La séparation du Sud-Soudan a été aussi vécue pour certains d'entre eux comme une espèce d'abdication. On laisse partir le Sud-Soudan, alors même que c'était un territoire qui faisait partie de l'imaginaire national, nationaliste, total. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se garder de tourner l'analyse sur le Soudan entre le Nord ou le Sud, puisqu'en fait c'est bien plus complexe, les relations étaient bien plus denses et complexes que... On veut le croire.
Bien justement, nous allons avec Clément Déhaye qui va revenir en plateau et prendre votre place. Nous allons nous interroger sur ce slogan. Est-ce que on vient de parler du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud obtient officiellement l'indépendance en 2011. En 2003, il y a eu la guerre terrible du Darfour. Et vous disiez tout à l'heure... Nous sommes tous soudanais.
Donc oui, qui fait penser à « Nous sommes tous Darfouri » de la révolution actuelle, qui a été un slogan largement diffusé pendant la révolution de 2018-2019 et qui vient à la suite de l'accusation par le régime d'un certain nombre d'étudiants Darfouri présentés comme des saboteurs, des ennemis intérieurs, etc. Et la révolution, où les personnes participant, en tout cas aux manifestations, se saisit de ce slogan pour derrière quelque chose d'unificateur, de nationalisme unificateur, derrière l'idée soudanaise. Donc c'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose que nous a dit Lucie Revilla il y a quelques minutes. Mais je crois aussi qu'au-delà du moment très fort, très intégrateur de la révolution, un certain nombre de processus aussi de discrimination quotidienne continuent à avoir cours. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui a été extrêmement reproché durant les négociations politiques qu'on donnait lieu à ce gouvernement de transition, la sous-représentation de personnes issues du Darfour, de l'Est, du Sud, la complète disparition des femmes des institutions de la transition politique actuelle a été complètement décrite. C'est-à-dire que une partie du personnel politique des négociateurs n'ont pas pris la mesure des attentes, mais ont continué aussi et continuent toujours, l'administration continue toujours à fonctionner selon des règles où il y a des formes de discrimination institutionnalisées, des formes de racisme d'État également, contre différentes populations. Donc il faut évidemment faire très très attention, comme l'ont dit mes collègues avant, à toutes ces dichotomies. Néanmoins, ça reste aussi des fois des manières de penser d'une partie de la population soudanaise. Et ça m'amène à deux points. Le premier, c'est l'administration n'a pas changé. La majorité des personnes qui composaient l'administration de l'Ancien Régime n'a pas changé. Et ils n'étaient pas forcément tous des soutiens ardents du projet d'Hassan el-Tourabi ou d'Omar el-Béchir. Mais il y a toujours des réseaux à l'intérieur de l'administration qui, de manière très nette, hein, puisque ça a été dit et ça a causé un certain nombre de problèmes, mettent en péril un certain nombre de réformes administratives qui sont en cours, qui luttent contre son propre gouvernement. Donc il y a des résistances internes. On parlait du château de cartes, en effet, qui n'est pas forcément la meilleure image pour décrire. Il y a encore des centres de pouvoir qui sont fidèles ou qui, en tout cas, sont hostiles aux changements en cours à l'intérieur de l'administration et qui y résistent. Et ces personnes, notamment dans les administrations famille, santé, etc., sont toujours très fortes et mettent en péril une partie de la transition politique. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de la recomposition des arènes ou des élites politiques soudanaises. Les personnes qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, qui mènent les négociations, sont des personnes extrêmement minoritaires. Ce sont des personnes issues des élites qui ont été poussées par le régime précédent, donc qui viennent de vieilles élites postcoloniales des années 50, 60, 80, qui ont fait leurs études ensemble. Si on regarde le gouvernement soudanais aujourd'hui, ils étaient quasiment tous à l'université de Khartoum dans les années 80, militaient dans les mêmes organisations, ils se connaissent, ce sont des réseaux préétablis assez forts et qui, pas prennent leur revanche, mais remplacent et essayent de remplacer progressivement le projet civilisationnel dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est quelque chose de très fort parce que ça inscrit cette révolution à la fois, il y a des attentes populaires très fortes, des auto-organisations dont on a parlé localement à l'échelle des quartiers qui continuent à pousser dans une direction, et en même temps les arènes politiques et les gouvernements, les élites politiques qui négocient, qui prennent les mesures, sont issus de vieilles familles d'une manière de penser la politique qui est peut-être anachronique par rapport aux attentes de la population, et ce qui crée un certain nombre de tensions actuellement et de marginalisation, notamment des femmes, des Darfouris, etc. C'est-à-dire que les seules aujourd'hui personnes au gouvernement qui sont issues de zones marginalisées le sont parce qu'il y a eu des accords de paix et que ça fait partie des accords de paix. Sinon, il n'y en aurait pas. Y compris d'ailleurs un ancien proche d'Hassan el-Tourabi, puisque Djibril Ibrahim, qui est un ancien rebelle du Darfour qui s'était éloigné d'Hassan el-Tourabi dans les années 90, est aujourd'hui ministre des Finances du gouvernement, alors que les communistes refusent de participer au gouvernement. Donc la période de recomposition aujourd'hui politique est extrêmement complexe et dense.
Ce qui semble le fil rouge du Soudan depuis au moins l'indépendance, c'est l'échec du fédéralisme. Nous sommes tous soudanais, projet civilisationnel, essayer de faire en sorte que l'égalité soit... Enfin, mais il y a aussi cette espèce d'échec absolu. Or, il n'y a pas de possibilité de Soudan sans fédéralisme, n'est-ce pas? Et même si, déjà, le Soudan du Sud et son pétrole, dit-on, mais il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont séparées, le Darfour à l'ouest, est-ce que dans vos recherches, vous avez pu mettre le doigt sur les raisons de cet échec?
Alors, d'un côté, on les comprend par rapport à des conjonctures historiques. Et encore une fois, cet échec de fédéralisme, il faut le nuancer parce qu'il y a eu quand même une période au début de la dictature des Nimeri où il y a eu les accords de paix d'Addis Abeba, où il y a eu vraiment une avancée faite par rapport à ça. Et effectivement, c'est la période de paix entre le Nord et le Sud qui correspond à cette année. Et ensuite, quand Nimeri, petit à petit, se rapproche à des alliés islamistes, en fait, les projets islamistes, un peu comme les projets nationalistes des années 50, il est incompatible avec le fédéralisme. Voilà. C'est idéologiquement, ça peut pas fonctionner. Donc, quand vous avez des régimes qui prônent les nationalismes, voilà, à l'année 50, aux années, enfin, je veux dire, à la manière des années 50 à laquelle il faut construire une nation. Et pour construire la nation, il faut oublier, voire gommer, voire effacer nos différences. Ça, c'était l'idéologie nationaliste pure et dure. Un projet fédéraliste n'a pas sa place. Et pareil, alors que vous avez un régime islamiste, c'est incompatible à voir des régions comme dans le Sud-Soudan ont une autre religion, un autre statut, d'autres fêtes, une autre manière d'enseigner, une autre langue, parler. C'est incompatible avec ces projets civilisationnels-là. C'était compatible avec un projet socialiste. Bon, Nimeri, il arrive de la gauche, on pourrait dire, mais c'est un homme de l'armée, il est proche de la gauche, on peut dire. Donc au début, il est quand même influencé par ces idées-là. Effectivement, les partis communistes, encore une fois, les forces de gauche étaient vraiment, enfin, ils soutenaient un projet fédéraliste, mais elles étaient complètement minoritaires. Quand Nimeri arrive au pouvoir et qu'il est proche de ces forces-là, il essaye de les mettre en place. Mais tout de suite, ça ne fonctionne pas, justement parce qu'il a un problème de soutien populaire et voilà.
Nous avons donc vu un Soudan qui trouve difficilement son équilibre kaléidoscopique. Peut-il y avoir un équilibre kaléidoscopique? Je voudrais qu'on termine avec les affaires étrangères, la géopolitique qui vient là aussi bousculer le pays, qui est un certain enjeu. Est-ce qu'en deux minutes, vous pouvez nous résumer les forces contraires qui bousculent le Soudan?
Alors, je vais être très bref du coup, parce qu'en deux minutes, c'est complexe. Sachant qu'en plus, la situation a beaucoup changé ces deux dernières années. Pour aller très vite et simplifier, il y avait l'armée au moment de la mise à l'écart d'Omar el-Béchir, est soutenu dans ce projet, est soutenu dans sa prise de pouvoir par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. À ce moment-là, progressivement, ce soutien va un petit peu s'étioler au fur et à mesure des années depuis, notamment sous la pression des Américains et des Européens qui ont soutenu le processus révolutionnaire. Alors, pas dès le début, évidemment, seulement une fois que Omar el-Béchir est tombé, avant, les pays européens étaient beaucoup plus frileux, mais à partir du moment où Omar el-Béchir tombe, il y a un soutien européen assez important, hein, puisqu'on l'a vu encore récemment à la conférence de Paris, des annulations de dettes, des prêts relais, etc., qui sont les mêmes solutions libérales appliquées à peu près à tous les pays et qui ne marchent assez rarement. Néanmoins, ça reste un soutien fort des pays européens.
Pour les Américains, précisons juste que c'est Bill Clinton en 1993 qui met le Soudan sur la liste des pays soutenant le terrorisme et que c'est un des derniers gestes du président Trump en décembre 2020. Il retire le Soudan de cette liste, mais chez lui, c'est toujours du donnant-donnant. Et le donnant-donnant, c'est en gros
la normalisation avec Israël.
Exactement.
C'est la normalisation
avec Israël. Et donc là, on est sur quelque chose qui peut avoir des retours de flamme.
Alors pour l'instant, il y a eu un petit peu de manifestations au Soudan, il y a eu quelques difficultés, mais dans l'ensemble, c'est pas la préoccupation majoritaire de la population. Il y a une crise économique qui est tellement énorme au Soudan, il y a des coupures d'électricité, d'eau courante, il y a un manque de gaz de cuisine, d'essence, de pain, d'à peu près tout. Il y a à peu près 25% de la population qui ne mange pas à sa faim. Il apparaît assez peu probable que ça soit quelque chose de central dans le quotidien des Soudanais. Par contre, au niveau régional, en ce moment, il y a des choses plus problématiques. Il y a deux choses qui sont très problématiques. C'est l'Éthiopie, parce qu'il y a un conflit actuellement. Sur les eaux du Nil, le barrage de la Renaissance, donc où le Soudan s'est aligné sur les positions égyptiennes contre l'Éthiopie, et ce barrage de la Renaissance éthiopien qui va limiter le flux d'eau au Soudan et en Égypte, et également sur une petite région de Fachaga qui est disputée entre l'Éthiopie et les Soudanais, où il y a eu des affrontements armés ces derniers mois, et pour l'instant la situation est un petit peu en suspens à ce niveau-là. Et la deuxième difficulté, peut-être, c'est au niveau de la Libye, de la frontière libyenne, puisqu'il y a un certain nombre de groupes d'Arfouris qui en avaient fait leur base de repli et qui étaient utilisés dans la guerre civile libyenne et qui sont en train de revenir maintenant. Mais il y a des difficultés, des petits conflits sur la question du contrôle de la frontière, qui est une rente, puisque c'est le passage des migrants, et qui étaient des rentes de brigandage et d'un certain nombre de groupes armés, y compris de Hemeti, qui est aujourd'hui au pouvoir. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques autour de ces questions-là.
Sans oublier des flux migratoires du fait des opérations au Tigré. Ouais.
Au Soudan du Sud, les conflits latents au Soudan du Sud, au Tigré. Il y a le Soudan est le troisième pays en Afrique accueillant le plus de réfugiés, je crois, le deuxième ou le troisième. Donc ce sont des chiffres vraiment importants dans un pays qui est en crise, et c'est une problématique qui est difficile à traiter.
Et le Darfour, je disais à peu près 300 000 morts, mais il y a eu 2,5 millions de déplacés. Enfin.
Sur une population de 8 à 10 millions, donc c'est vraiment gigantesque les proportions pour le Darfour.
Mais ce que j'ai aimé dans cette émission, c'est que vous avez toujours tenu à parler des mouvements sociaux et de l'économie. Alors que, généralement, on plaque nos idées néocoloniales ou géopolitiques sur ce pays. Vous, votre propos a été de remettre des explications moins occidentales et plus soudanaises. Et après tout, ce n'est que normal, mais ça ne se fait pas tous les jours. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation.